vais d'abord répondre aux questions posées. Vous dites que seul l'amour fonde l'éthique. Mais un crime est bien un acte moral. Il est fondé sur la haine. Mais justement, la haine présuppose l'amour. Toujours ce que le négatif présuppose le positif. Un crime, c'est quelque chose qui est contraire à l'amour. C'est donc bien l'amour qui fonde. S'il n'y avait pas d'amour, il n'y aurait pas de responsabilité. La responsabilité naît à l'intérieur de l'amour, à l'intérieur de ce lien qui existe entre une personne et une autre personne. Alors, on peut évidemment répondre à cet amour ou ne pas répondre à cet amour. On peut évidemment laisser en nous naître une mauvaise volonté. Et ce n'est pas la mauvaise volonté qui supprime la bonne volonté. Ce n'est pas parce que de fait il existe de la haine que l'amour n'existe pas. Parce que toute haine présuppose l'amour. Je sais très bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas si commode que ça. L'autre jour, faisant un cours à des terminales, c'était à Toulouse, n'est-ce pas ? Et alors, en passant comme ça chez nos dominicaines de Toulouse, alors je parlais des passions, puisqu'elles m'avaient demandé de leur parler des passions. Et je dis que la passion haine présuppose la passion amour. Alors là-dessus, enlève le doigt, pas du tout, pas du tout. La haine est première. C'est une fille de 16 ans. La haine est première. Et on a discuté pendant tout le cours sur la primauté de la haine ou la primauté de l'amour. Et vous voyez, on retrouve exactement du côté affectif ce que du côté intellectuel on retrouve. La modernité, hein, pour l'appeler modernité, c'est-à-dire le grand tournant philosophique comparativement aux anciens. Je crois qu'on peut dire que pour les anciens, il y a un primat de l'affirmation sur la négation et que pour les modernes, il y a un primat de la négation sur l'affirmation. Ça, c'est une constatation. Ce n'est pas une question de savoir quelle est la vérité ou pas la vérité. C'est une constatation. Eh bien, ce qu'on retrouve du côté intellectuel, on retrouve du côté affectif. Pour les anciens, il n'y a pas de haine sans l'amour. Pour les modernes, et je pense l'exemple, la haine est première. Très important, ça, c'est toute une question d'équilibre. Alors, bon, c'est une constatation. Après, on devrait philosophiquement comprendre que la négation ne peut pas exister sans l'affirmation et la haine ne peut pas exister sans l'amour. Alors ça nous mettrait assez loin de discuter ça, parce que c'est au cœur de toute la critique. Et je crois que c'est vraiment la grande différence entre ce qui représente la philosophie ancienne, si vous voulez, la philosophie grecque, et puis la philosophie moderne. Ce qui explique le primat de l'idée, vous voyez. Parce que si la négation est première, l'idée peut-être est première, alors. Ce n'est plus la réalité. Alors, c'est assez simple au point de vue intellectuel. C'est beaucoup plus difficile au point de vue affectif, comme toujours. C'est beaucoup plus simple au point de vue intellectuel de montrer le primat de l'affirmation sur la négation. Le langage est là pour nous le montrer comme un petit signe, pas plus, hein, c'est pas une argumentation. Mais dans le langage, la négation vient toujours s'ajouter. Toute proposition négative est une proposition qui est plus complexe que la proposition affirmative. Ceci est, ceci n'est pas. Très curieux. Donc dans le langage, il y a un signe, c'est ça qui est du reste très intéressant à voir, que l'affirmation du primat de la négation va contre le langage. Le langage, c'est assez normal, hein. Parce que le langage est quelque chose qu'on change beaucoup plus difficilement. La tradition est du côté du langage. Et donc, on change beaucoup plus difficilement. Tandis que la pensée, elle est intérieure, et alors elle ne laisse pas de traces. Et si la pensée d'Aristote restait présente en acte, ce serait un poids énorme à soulever pour pouvoir devenir hégélien. Tandis que la pensée d'Aristote n'étant restée dans sa trace que dans ses œuvres, il est plus facile de renverser le point de vue des œuvres que le point de vue de la parole. Et c'est vrai, la pensée n'existe que tant de témoignages que dans les œuvres, donc que dans le langage. Alors, on comprend, c'est ainsi. Alors, je crois qu'on pourrait, ce serait l'autre argumentation, au point de vue critique, de montrer que celui qui met le primat sur la négation reconnaît qu'il y a une affirmation. Alors, c'est vrai. Tout le monde reconnaît qu'il y a une affirmation. On ne parlerait plus s'il n'y avait que la négation. On serait obligé de rester dans le silence. Il n'y aurait plus rien si la négation était première. Il faut bien qu'il y ait quelque chose sur laquelle ça repose. La négation est un fruit de l'intelligence. C'est un être de raison, la négation. C'est un être de raison, donc, qui n'est jamais premier comme être de raison. Et donc, la négation, comme fruit de la pensée, présuppose toujours autre chose. Elle présuppose affirmation. Vous voyez, c'est là où il faudrait, au point de vue critique, montrer comment l'affirmation est première. Et donc, si l'affirmation est première, du côté affectif, on retrouve quelque chose d'analogue, la haine présuppose toujours quelque chose d'affirmatif. La haine est négative, la haine noire. Elle est négative, parce qu'elle est toujours noire, la haine. Alors, elle est négative, c'est la négation de l'amour.
On peut considérer l'amour comme la négation de la haine ?
Non, pas du tout. Comment voulez-vous que ce soit la négation de la haine ? Qu'est-ce que c'est que la haine ? Comment définissez-vous la haine ? Comment définissez-vous la haine ? Moi, je peux vous. Quand je précise ce que c'est que l'amour, je ne mets pas la haine dedans. Tandis que quand je précise la haine, je mets en opposition. La haine est une négation affective à l'égard de quelqu'un. Oui ? Non, c'est une négation dans l'ordre de l'amour, la haine. C'est pas l'amour propre. Heureusement, je peux m'aimer moi-même sans haine. Heureusement. Oui, ça présuppose l'amour propre, mais c'est pas l'amour propre. L'amour propre est fondamental, comparativement à la haine. Vous voyez ? C'est pour montrer le primat de l'amour par rapport à la haine. La haine est relative à un amour, parce qu'elle implique une négation. Oui. C'est pour ça que je peux définir l'amour sans la haine, tandis que je ne peux jamais définir la haine sans l'amour. Du reste, si nous sommes un peu conscients de notre propre expérience de haine, parce que nous avons tous une certaine expérience de haine, pas à l'égard des personnes, j'espère, mais à l'égard du mal. Le mal est haïssable. Et c'est une qualité de haïr le mal. Le mal, pas la personne mauvaise, mais le mal. Eh bien, si vous réfléchissez sur la haine, votre expérience de haine, vous voyez que votre expérience de haine présuppose nécessairement la question du bien. Puisque le mal, c'est la privation d'un bien. Oui. Si vous alliez jusqu'au bout, vous seriez obligé de mettre ceci. La négation serait première, la haine serait première, le mal serait premier. Ça engendre ça. Et ça se tient. La négation s'oppose à l'affirmation. L'affirmation, c'est l'amour et c'est le bien. Alors, il faut saisir que, de fait, au point de vue critique, je peux assez facilement montrer que l'affirmation est première et que l'affirmation n'implique pas la négation alors que toute négation implique une affirmation. Et là, vous avez le signe dans le langage. Le langage est net dans toutes les langues. Toujours. La négation est une chose qui vient s'ajouter. Donc, ça présuppose autre chose. Puis si je réfléchis sur la structure intellectuelle de la négation, sur la structure intellectuelle, pas seulement sur le langage, je vois qu'affirmation et négation, bon, c'est très vrai, c'est deux structures de ma vie intellectuelle dans le point de vue du jugement, mais que l'affirmation, elle, implique une opération première, tandis que la négation présuppose l'autre. Alors, du côté affectif, je peux aussi faire l'expérience alors du côté de la passion. Du côté passionnel, c'est assez net. Je peux assez facilement expérimenter la haine et l'amour. Eh bien, je présuppose que la haine naît toujours à partir d'un amour. Quand il n'y a pas d'amour, il y a la sainte indifférence. Heureusement, c'est autrement plus reposant. Alors, je suis complètement indifférent par mon chemin. Tandis que quand vous avez de la haine, c'est parce que vous avez un amour déçu. Alors à ce moment, ça change ma haine. C'est extraordinaire de voir du reste la naissance de la haine. La naissance de la haine, ça naît à partir d'un amour. Ça, c'est sûr. Faites expérience. Souvenez-vous des haines que vous pouvez porter dans votre cœur. Des haines à l'égard du mal. Hein. Pas à l'égard des personnes. Très mal. Mais à l'égard du mal, la haine est une chose bonne, c'est une chose saine. Ne pas haïr le mal, c'est mauvais. C'est un manque de tempérament. C'est un manque de vigueur, c'est un manque de vie. On a une haine vis-à-vis du mal. Parce que c'est le mouvement affectif de négation et de rejet. Qu'est-ce qu'il y a ?
Faut-il avoir aimé le mal pour le haïr ?
Parce qu'il faut comprendre que c'est un biais qui nous soustrait. Oui. C'est à cause de ça. C'est autrement, il n'y a pas de mal négatif. Donc il faut qu'il y ait le support du bien pour que le mal naisse. Vous voyez, c'est une privation. Et alors ça naît à partir de ça. Et alors vous avez eu ce bien, vous avez cru, voilà, c'est très simple. Bon, un beau morceau de gâteau devant vous, n'est-ce pas ? Passion d'amour, et bien on vous l'enlève. Le chocolat, si vous voulez, parce que c'est le chocolat qui tue. Ou le bon vin. Alors, c'est encore plus réaliste. Et à ce moment-là, vous comprenez, vous avez miroité ça. Alors, vous voyez, alors un champ passe et renverse le verre. Alors, espèce d'imbécile, vous voyez, parce qu'il vous a fait créer un arbre. Alors, vous voyez, là on touche quelque chose d'extrêmement important, c'est que pour une philosophie réaliste, affirmation, amour est bien son premier. Pour une philosophie idéaliste, et la philosophie idéaliste ne peut naître qu'avec un prisme de la négation, un prisme de la haine et un prisme du mal. Au sens fort, si elle va jusqu'au bout, hein. C'est ça là. Le primat de l'idée implique ça. Dans la philosophie de Lien, c'est net.
Vous pouvez préciser en quoi et dans quel ordre l'affirmation est première
? Je ne veux pas trop l'affirmer ici. C'est tout un cours de critique, ça. Ceux qui ont suivi le cours de critique à Fribourg le savent, n'est-ce pas, que c'est une grosse question, une très grande question importante au point de vue critique, mais c'est vraiment de la critique, ça, vous voyez. En étant d'éthique, je ne veux pas trop déborder. Mais il faut essayer de le creuser, le point de vue éthique. C'est très important. C'est très important de saisir le primat de l'affirmation par rapport à la négation. Là, nous saisissons vraiment une frontière. Nous saisissons deux abîmes. Hein. Une philosophie réaliste et une philosophie idéaliste qui naît à partir de là. Aristote avait dit ça d'une façon très très jolie en disant la négation était première chez les premiers théologiens. C'était Hésiode. Et on pourrait dire la négation va devenir dernière, va devenir première chez les théologiens. C'est très curieux, hein, mais c'est très intéressant à voir. Et on comprend très bien comment chez les théologiens, parce que je crois que c'est la laïcisation de la théologie négative qui a fait naître le primat de la négation. Et ça, je crois que c'est vrai. Le théologien, vous voyez, aime la négation. Ça fait comprendre des quantités de querelles entre théologiens. Le théologien aime la négation, mais le théologien s'en sert pour la transcendance de Dieu. Mais quand il laïsse sa pensée n'est plus suffisamment contemplative, ça vient le primat de la négation. Et ça, l'histoire, ce serait très intéressant à montrer, parce que ce serait de montrer comment toute cette philosophie contemporaine est née d'une laïcisation de la théologie. Et ça, je crois que c'est très vrai. Elle est née d'une laïcisation de la théologie. Alors, l'artiste en tant que tel n'est-il pas libre et responsable? Bien que cette liberté, cette responsabilité soient très différentes du point de vue éthique. Si oui, ces deux notions suffisent-elles à délimiter la sphère de l'activité morale? C'est très vrai que l'artiste en tant que tel n'est pas libre et responsable. C'est-à-dire, il faudrait encore préciser, il y a une certaine liberté de l'artiste, il y a une certaine responsabilité de l'artiste, mais la liberté ne naît pas à partir de l'art. Tandis que la liberté naît à partir de l'amour. Mais il y a une certaine liberté de l'artiste, il ne faut pas la supprimer. Il ne faut pas dire que l'artiste en tant que tel n'est pas libre. Non, il y a une liberté, mais qui n'est pas première, vous voyez. Elle n'a pas le caractère aussi fondamental que dans le point de vue moral. Alors, là encore, je vous ai dit, nous reviendrons au terme sur le parallélisme entre le point de vue du facere et de la juge. Je ne veux pas trop entrer là-dedans, dans cette question. Il y a d'autres questions, c'est pour ça que je vais vite. Hein. Ah oui, alors on arrive à l'imperium. C'est ça que je voulais. Si l'imperium, c'est marqué au rouge, parce que l'imperium doit être marqué au rouge. Parce que nous étions restés là et je vous avais demandé d'y réfléchir. Si l'impérium peut se manifester particulièrement dans le commandement, en révélant son principe, l'autorité, ne doit-on tout de même pas dire que c'est dans l'amour d'amitié que l'impérium atteint son sommet? N'est-ce pas dans ce dernier cas, en effet, que la responsabilité est la plus profonde? Donc là, on touche le cœur du sujet. Hein, vous vous souvenez, je vous avais posé la question, est-ce que l'impérium est particulièrement manifeste dans l'impérium à l'égard d'un autre quand on dit « fais ceci », donc quand l'impérium se rattache à l'autorité. L'autorité à l'égard d'un autre. Évidemment, l'autorité à l'égard d'un autre, qu'on voit mieux ce que c'est que l'autorité, fait ceci. Ou au contraire, l'impérium à l'égard de soi-même. Je peux me commander. Je peux me commander. Et je peux me commander de multiples manières. Tous les soirs, vous vous commandez par rapport au matin. Je me leverai à 6 heures. Et le matin, l'impérium est moins fort que le soir. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors ça, c'est l'inhibition de l'impérium. On y reviendra, l'inhibition de l'impérium. C'est très très important. N'est-ce pas ? Mais vous décidez le soir de vous lever à telle heure. N'est-ce pas ? Et vous dites, je vais me... Bon. Alors à ce moment-là, vous vous donnez à vous-même un impérium. Je vais me lever à telle heure. Bien parce qu'on doit prendre un train très tôt, je vais me lever à telle heure. On est décidé. Et puis, quand ça sonne, on dit, ah, j'ai pas entendu mon réveil. Oui, c'était la mauvaise oreille. L'autre jour, ça m'est arrivé, quelqu'un me dit, j'ai pas entendu, t'es pas Laurent Bérou. J'ai pas entendu mon réveil. Oui, attention, j'ai pas entendu mon réveil. C'est qu'au fond, on a une espèce d'autodéfense extraordinaire par rapport à son impérium. Une espèce d'autodéfense, au fond, je ne veux pas l'entendre. Alors on l'entend pas, vous savez, les sourds, c'est comme ça. Ils entendent quelque chose et puis ils ne veulent pas entendre pour d'autre chose. Hein. C'est connu. Alors, et alors ça, c'est l'impérium. Hein. L'impérium, de temps en temps, ça peut être vrai. Pas trop vite généralisé, mais il y a des choses comme ça. L'impérium par rapport à soi-même. Alors, est-ce que c'est cet impérium-là? Je dis, cet impérium-là me semble très manifeste. L'autre. Alors, voici la question. Hein. Si l'impérium peut se manifester particulièrement dans le commandement, en révélant son principe, l'autorité. En réalité, ce n'est pas l'autorité qui est le principe, c'est la prudence. C'est la prudence qui relève de l'autorité. Ne doit-on pas tout de même dire que c'est dans l'amour d'amitié que l'impérium atteint son sommet? C'était la question posée. N'est-ce pas dans ce dernier cas, en effet, que la responsabilité est la plus profonde, vu qu'il s'agit alors d'une relation proprement spirituelle de personne à personne? Réciprocité parfaite, où le passage de l'amour affectif à l'amour effectif s'impose le plus pour chacune des personnes en cause, dans l'ordre de la coopération et de l'autorité. Il semble que ce passage de l'affectif, dans l'ordre de la coopération et de l'autorité, il semble que ce passage de l'affectif à l'effectif va de soi, exigeant donc moins l'impérium. C'est très beau comme question, hein. Très bien posée, très tout à fait d'accord à regarder ça attentivement avec vous. Savoir si vous vous souvenez, hein, c'était très important la question que vous vous posez. On avait essayé de comprendre tous les moments de l'acte moral. Et on avait vu que tous les moments de l'acte moral étaient particulièrement eux-mêmes dans l'amour d'amitié. L'amour, l'intention de vie, le choix, le conseil, très très bien. Tout ça, on est tout à fait d'accord. Et puis, l'impérium. Alors, l'impérium, ah, ça faisait un petit moment d'hésitation. Et puis, la cloche sonnait à ce moment-là, ce qui était très bon. Donc, ça laissait le temps d'y réfléchir. Bon, l'impérium, parce que ça, on n'a pas beaucoup réfléchi sur cette comparaison de l'impérium. On a regardé l'impérium en lui-même, mais au fond, on n'a pas regardé où l'impérium était le plus lui-même. Instinctivement, on est conduit à dire que l'autorité est la plus manifeste. Hein? La plus manifeste, c'est très vrai. L'autorité est la plus, du moins l'impérium est le plus manifeste à propos de l'autorité vis-à-vis d'un autre. Donc, dans le commandement. Je crois qu'on doit maintenir que l'impérium est le plus manifeste dans cet acte-là. Mais le plus manifeste ne veut pas dire que l'impérium est le plus parfait. C'est là que je ferai la petite distinction. Le plus manifeste parce que justement, il se dit. Vous savez, quand vous vous donnez beaucoup de courage à vous-même, quand vous traversez des périls, allez, va, marche! Hein, vous vous dites ça, et vous aimez de le dire, on se cravache un peu, n'est-ce pas ? C'est nécessaire de pouvoir se le dire tout haut. Parce que même s'il n'y a personne, on le dit beaucoup plus haut, pour qu'on marche, on se donne du courage. Hein. Alors, c'est très vrai, ça a besoin d'être manifesté. On a besoin de l'entendre. On a besoin d'entendre un ordre. Fais ceci, vas-y, aie du courage, tiens bon. Vous voyez ? Et c'est vrai, on se dit ça, et parce qu'on en a besoin, on a besoin que ce soit entendu. Il faut que l'impérium soit manifeste. Pourquoi ? Parce que l'impérium fait entrer dans l'exécution. C'est l'exécution. Or, l'exécution, c'est nécessairement entrer dans le monde extérieur. C'est le monde visible, l'exécution. Enfin, c'est toujours le même exemple, vous savez bien, qu'il faut prendre pour bien comprendre ce que c'est que l'impérium. Vous avez appris tous les exercices de natation. Et puis, il y a l'eau qui est là. Vous avez appris les exercices de natation en dehors de l'eau. Puis, flouc, hein, faut vous jeter dedans. Et là, l'exécution. Vous passez dans le milieu extérieur. Et c'est pour ça que dans le milieu extérieur, vous avez besoin de quelqu'un qui vous... C'est le parachutiste, c'est comme ça, je ne l'ai pas fait, mais j'ai entendu des parachutistes, il y a des exemples ici qu'on pouvait demander. Eh bien, c'est très vrai que, qu'il faut être comme précipité, l'exécution, vous voyez, l'exécution. L'impérium, c'est à ces moments-là, on sait ce que c'est que l'impérium. Et là, il a besoin de venir de l'extérieur. Parce que, de fait, il me met dans le milieu extérieur. On verra ça par l'inhibition de l'impérium. Et c'est pour ça que la manifestation de l'impérium touche l'impérium. C'est pas extérieur à l'impérium d'être manifesté. Parce que je dois plonger dans le monde extérieur. Vous n'éprouvez pas du tout le même besoin quand il s'agit d'amour. Non, au contraire, l'amour est secret. L'amour garde le silence, on garde le silence quand on aime. Tandis que l'impérium, ah, fait ceci. Oui, on est cravaché. C'est tout à fait ça. On sent très bien le passage à quelque chose de l'extérieur. Tandis que l'amour, il est porté intérieurement, il est vécu intérieurement, l'intention, c'est la même chose, et le choix aussi. Tout ça est d'ordre secret. Il y a quelque chose de secret. Et quand on est obligé de le dire, c'est jamais commode. Tandis que l'impérium demande d'être dit. L'impérium demande d'être dit, parce que c'est le passage à l'extérieur. Et c'est pour ça que l'impérium, quand il se fait par rapport à un autre, a un caractère beaucoup plus fort, parce qu'il est dit à quelqu'un d'autre. Vous voyez ? On touche là quelque chose. Cependant, il reste vrai, et la remarque qui est faite ici est très juste, c'est que la qualité de l'impérium n'est pas la même dans l'ordre de l'amour par rapport à nous-mêmes, parce qu'à ce moment-là, dans pas l'impérium, on n'est pas l'ami. Hein. Quand on dit pas l'ami, fait ceci. Non, ça, c'est nous-mêmes hein, qui passons de l'union affective à l'union effective, c'est très très vrai. C'est ça le propre de l'impérium. Tu peux dire cela, tu dois dire cela. Vous voyez ? Alors ça, c'est le passage de l'union affective à l'union effective, et c'est très vrai qu'il y a un poids d'amour qui est plus grand, mais le poids d'amour n'est pas propre à l'impérium. C'est pas propre à l'impérium, c'est propre à l'amour, c'est propre à l'intention, c'est propre au choix. Qu'est-ce qui caractérise l'impérium ? Parce que c'est ça qui est important de voir. Qu'est-ce qui caractérise l'impérium ? C'est pas l'amour. Si c'était l'amour qui caractérisait l'impérium, jamais je ne pourrais expliquer le passage de l'union affective à l'union efficiente. Il faut quelque chose d'autre pour expliquer le passage de deux. Ce qui caractérise l'impérium, c'est justement ordonner l'exécution. C'est ce passage de l'intérieur à l'extérieur. C'est pour ça que l'impérium est un acte d'intelligence. Vous voyez ? Alors, tout ce qui m'est marqué ici, comme je ne sais pas c'est qui, c'est très bien, tout ce qui est marqué ici, c'est très juste du côté affectif. C'est pas juste du côté de l'impérium au sens propre. C'est suarésien. On est... C'est vrai, parce que pour Suarez, l'impérium est volontaire. Alors, si j'étais suarésien, je dirais, mais très très juste, mais je ne suis pas suarésien, grâce à Dieu. N'est-ce pas ? J'essaie de comprendre saint Thomas dans son point de vue propre de l'impérium, qui est un acte d'intelligence. C'est un acte d'intelligence, c'est ordonner ce passage de l'invisible au visible. C'est ça qui est si extraordinaire dans l'impérium. C'est le passage de l'invisible au visible. C'est le passage de ce que représente tout ce domaine que je porte au-dedans de moi-même, l'amour. Cet amour très fort, cet amour très impératif, mais qui n'est pas l'impérium. Vous voyez ? Caritas urget nos. Hein, on dirait que quand on dit la charité nous brûle. Bon, urget nos, alors on dit voilà l'impérium. Attention, non, pas du tout. C'est la charité qui est très impérative, mais qui n'est pas l'impérium. L'amour n'est pas l'impérium. L'impérium est un acte d'intelligence. Parce que l'impérium ordonne le visible à l'invisible. Et va nous faire comprendre comment le visible doit être ordonné par rapport à l'invisible. C'est l'ordre des deux. C'est ce qui explique, voyez, pourquoi l'impérium a besoin d'être dit. Tout ce qui est intellectuel a besoin d'être dit. Dans le sens que l'art demande d'être dit. Tandis que l'amour est secret. Et l'amour, plus il est fort, plus il est secret. Plus il est intense, plus il est secret. Tandis qu'au contraire, l'art demande l'expression. Et parce que c'est l'intelligence. L'intelligence demande que ce soit dit. Que ce soit exprimé, que ce soit dit. Et c'est pour ça que l'impérium demande d'être dit. Ça demande d'être manifesté, non seulement parce que c'est le passage du visible à de l'invisible au visible, mais c'est aussi parce que ça relève de l'intelligence. Donc c'est, j'allais dire, c'est le caractère propre de l'impérium d'être dit. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut maintenir que l'impérium est particulièrement fort dans le commandement. Je crois que c'est une question on sent bien quoi. Chacun d'entre nous qui a exercé un tout petit peu le commandement sait très bien que c'est le moment fort du commandement, c'est l'impérium quand on donne un ordre. Et la première fois qu'on donne un ordre, on tremblote à donner le commandement, vous comprenez, et non, ça va plus du tout, parce qu'on voit très bien le commandement doit être tranchant. L'impérium doit être quelque chose d'extrêmement précis, très très net. Autrement, c'est plus l'impérium. Il s'exprime de cette manière. Autrement, c'est plus l'impérium. Il s'exprime de cette manière. Dans l'ordre de l'amour d'amitié, il y a bien un impérium, c'est bien évident, il y a un impérium. On se commande à soi-même. Mais cet impérium a une qualité d'intériorité plus grande, c'est sûr. Donc la source de l'impérium est plus parfaite. Mais l'acte d'impérium a donc un caractère très différent dans l'ordre de l'amitié, dans l'ordre de l'amitié par rapport à nous-mêmes, que par rapport au commandement. Ce qui reste vrai, il y a quelque chose de vrai dans la question qui était posée, hein. Ce qui reste vrai, c'est que l'impérium, par rapport à l'ordre d'amitié, engage toute ma vie. Et donc, à ce moment-là, il a un sérieux, il a un poids d'amour, beaucoup plus grand. C'est la décision qu'on prend. La décision, non seulement la décision par rapport au choix, mais la décision qu'on prend par rapport à notre engagement concret. Notre vie sera une vie commune. Parce que l'impérium, c'est la vie commune. C'est dans la vie commune que ça se réalise. Et le passage, vous voyez, de l'amour d'amitié qui est choix à un amour d'amitié qui implique une vie commune, c'est justement ce fait que, à ce moment-là, il y a quelque chose qui fait qu'on se jette à l'eau. Oui.
On pourrait dire donc que d'un côté, du côté de la coopération, il y a plus de manifestations, mais que l'impérium est parfait dans l'ordre de l'amitié.
Non, je n'oserais pas le dire parce que la manifestation fait partie de l'impérium. C'est pas accidentel, vous voyez. C'est pour ça que c'est très délicat. Mais il y a une manifestation qui est beaucoup, qui c'est très vrai qu'il y a une manifestation. Alors je dirais, substantiellement, l'acte d'impérium dans l'ordre de l'amitié a un caractère unique. Mais la qualité de l'impérium, vous voyez, la qualité de l'impérium est plus forte ici.
Alors, comment dire, manifestation et qualité, vous identifiez.
Tu vois, à cause de l'impérium, à cause de la qualité de l'intelligence. Et au fond, c'est comme le point de l'intelligence. L'intelligence a besoin d'une précision. C'est la qualité de l'intelligence. Or, c'est un acte d'intelligence. C'est l'intelligence pratique. Et alors, je dirais qu'il y a une précision dans l'impérium du commandement, à cause même du commandement, qui fait que cette qualité de l'impérium est très particulière. Mais cependant, et alors je suis d'accord de dire que dans l'ordre de l'amour d'amitié, il y a une valeur, c'est difficile, je dis substantielle parce que justement ça engage toute notre vie, ça a une valeur du côté de la finalité qui est beaucoup plus grande. Alors, du côté moral, comprenez bien, du côté moral, l'impérium dans l'ordre de l'amitié est plus important du côté de la finalité. Mais du côté de la nature même de l'acte, l'impérium dans le commandement a une qualité unique.
Oui. Le rapport qui est souligné entre impérium dans l'ordre de la morale, impérium et responsabilité.
Oui, je regarde d'abord l'impérium. Hein.
Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de comprendre à la lumière de la
responsabilité ? Oui, d'accord, mais il faut d'abord regarder l'impérium. Il faut d'abord regarder l'impérium en lui-même.
Hein. C'est pas la difficulté en lui-même.
Ah oui ! Oh, je comprends, mais c'est un acte. C'est un acte moral, l'impérium, qui a sa propre nature et que je dois regarder en lui-même. Vous voyez, si je regarde uniquement la conséquence, c'est la conséquence.
C'est la manifestation.
Non. La responsabilité n'est pas la manifestation. C'est une propriété, c'est tout. C'est pas la manifestation. La manifestation, elle se fait du côté du commandement. Ouais. C'est la manifestation d'un acte intellectuel qui se manifeste et qui a surtout visible. Vous voyez ? C'est pour ça que je dis, je crois qu'il faut regarder, c'est intéressant du reste, parce que comme étude, c'est un petit peu ce qu'on avait vu à propos du choix, vous voyez ? Alors, du côté du choix, c'est beaucoup plus facile. On avait vu qu'il y avait le choix dans l'ordre de l'amitié, qui avait une qualité unique parce qu'on choisit une personne. Alors là, c'est très net. Le choix qui choisit une personne a une qualité unique comparativement à tous les autres choix. Ici, il y a un partage des eaux. Vous voyez ? Parce que l'impérium est un acte d'intelligence. Si l'impérium était un acte d'amour, on continuerait du côté du choix. Mais comme l'impérium est un acte d'intelligence pratique, liée à la volonté, liée à l'amour, c'est très curieux de voir qu'alors, à ce moment-là, du côté de l'amour d'amitié, l'impérium a une importance unique en raison de la finalité, mais du côté de la qualité même de l'acte, je dirais que la qualité de l'acte de l'impérium est plus manifestée, et quand je dis manifeste, je le prends pas comme quelque chose de second, comme structure même de l'impérium. L'impérium a quelque chose de beaucoup plus impératif, vous voyez ? Et donc quelque chose de plus impérium dans l'acte du commandement. Il me semble, hein, parce que c'est des choses difficiles à préciser, mais il me semble bien qu'on doit faire ce partage. Vous voyez, faites-le par rapport au choix, la différence entre le choix de la vie et le choix d'un moyen. Il est évident que le choix d'un moyen manifeste davantage, si vous voulez, le point de vue liberté. De l'autre côté, je vois la qualité du choix de la vie, parce que c'est la préférence qui va plus loin, alors je comprends mieux ce choix tout à fait particulier de choisir un ami. Et c'est vraiment le choix là qui a une qualité unique. Ici, l'impérium, c'est un acte d'intelligence, ordonner l'exécution. Vous voyez ? Dans cet ordre d'exécution, cet acte d'intelligence a une qualité très particulière quand il passe vis-à-vis de l'autre. Vous voyez ? Pas sa connaissance spéculative. C'est deux choses différentes. Vous voyez, l'impérium n'est pas du côté de l'activité spéculative. C'est du côté moral. Et c'est parce qu'il y a l'âme et le corps, il y a l'invisible et le visible qui a l'impérium, qui a ce passage vis-à-vis de ce qu'on représente la vie habituelle. Alors il y a l'impérium, le passage de l'union affective à l'union affective. C'est tout à fait pour ça que l'impérium existe. Nettement. Alors, je cherchais, ça vaut la peine, même si de fait on voit que c'est difficile, c'est pas, ça vaut la peine d'être posé. Est-ce que l'impérium, dans l'acte de commandement par rapport à celui qui a autorité vis-à-vis d'un autre, est-il plus impérium? C'est-à-dire, est-ce que c'est là où l'acte d'autorité est le plus acte d'autorité que lorsque l'ami se commande à lui-même par rapport à son ami? Oui, par rapport à l'amitié qu'il a. Non, qu'est-ce que je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire. L'impérium implique un commandement. C'est pas fait ceci. Bon. Ce commandement porte sur un autre ou sur nous-mêmes. Vous vous commandez à vous-même, hein, heureusement. Et vous, c'est l'auto-éducation de soi-même. Bon. Il y a un acte d'impérium à l'intérieur même de l'amour d'amitié. Alors, on se demande si cet acte d'impérium à l'intérieur même du développement d'amour d'amitié est-il plus parfait comme impérium que l'impérium par rapport au commandement vis-à-vis d'un autre. Et je me pose cela en raison même de ce que nous avions vu précédemment, comme quoi toutes les activités morales se retrouvaient présentes dans l'amour d'amitié, et elles se trouvaient présentes dans l'amour d'amitié au maximum. Alors, seulement un moment d'hésitation, l'impérium. Et ça, c'est très intéressant. C'est très très intéressant, parce que je crois que ça va très loin, ça. Parce que ça fait comprendre comment, de fait, l'amour d'amitié commande tout le point de vue moral, mais il y a, du côté de l'impérium, quelque chose qui demande d'être développé du côté communautaire. Oui. Parce que c'est pas l'impérium que, et c'est dans l'impérium que va naître l'aspect communautaire. Tandis que l'amour d'amitié est au-delà. Oui. C'est l'éthique personnelle et l'éthique communautaire. Alors vous avez bien que c'est un très très gros problème de voir l'agencement de l'éthique personnelle et de l'éthique politique. De l'éthique communautaire, c'est des problèmes qu'on se repose tout le temps, ça. Et qu'il faut tout le temps se reposer. Il ne faut pas dire on a donné une solution là-dessus. Non, on sent qu'Aristote a touché le problème, Platon a touché le problème, on a retouché le problème constamment, il s'agit de le repenser pour nous. Or, il semble bien que l'impérium soit une pièce dominante par rapport à comprendre le lien entre l'éthique personnelle et l'éthique politique. L'éthique communautaire. Et on comprend très bien, parce que y a-t-il deux prudences? On retrouvera le même problème avec les vertus. Y a-t-il deux prudences? Une prudence personnelle, une prudence politique. Y a-t-il une prudence personnelle dans l'amour d'amitié? Ma prudence est au service de mon amour d'amitié. Si j'aime vraiment. Ce n'est pas mon amour d'amitié qui est au service de ma prudence. Hein. Heureusement. Parce que la pauvre amitié. Tandis que l'amour d'amitié assume la prudence. Or, parmi les actes de prudence, nous le verrons, il y a l'impérium. Nous verrons l'impérium. Donc, ce que je dis ici, ça pourrait être repris hein, quand on sera, je dirais peut-être l'inverse à ce moment-là, vous soulignerez. Parce qu'on cherche. Ce sont des problèmes qui n'ont pas été très explicités. Et donc on doit les chercher, on doit les retrouver. Alors, le problème de la prudence, parmi les actes de la prudence, il y a l'impérium. Un homme prudent est un homme qui sait s'engager au bon moment. L'imprudent, c'est celui qui s'engage toujours au mauvais moment. C'est ça l'imprudent. Alors il se précipite à toute vitesse, parce qu'il a peur d'arriver en retard. Alors il se précipite à toute vitesse, ou en vrai, il ne se précipite jamais. En disant, moi, je suis prudent, je ne m'engage pas. Alors on laisse passer le train, c'est tout. Puis on reste là. Ça arrive. C'est vrai, cette espèce de prudence qui n'est pas une vraie prudence, qui ne veut pas s'engager. L'homme prudent, c'est celui qui s'engage à bon escient et au bon moment. Et la question du temps intervient, parce que le passage à l'exécution. Dès que je suis dans l'ordre de l'exécution, le temps joue tout de suite. Immédiatement. Donc il y a un moment opportuno, l'opportunité. Il faut s'engager au bon moment. Non, c'est l'occasion qui fait le bon larron. C'est vrai, c'est l'occasion. Il faut s'engager au bon moment. Parce qu'il faut savoir vite s'engager à ce moment-là. Puis savoir qu'après, ce sera trop tard. Alors, vous voyez, c'est une question de prudence. Alors, si l'imperium relève de la prudence, y a-t-il une prudence personnelle? Y a-t-il une prudence politique? Ce sont comme deux prudences. Ou est-ce que c'est la prudence personnelle qui va, de fait, prendre une extension nouvelle dans la prudence politique? Alors ça vient très loin. Un homme politique qui n'est pas prudent personnellement ne peut pas être un homme prudent politiquement. C'est pour ça que c'est la pièce dominante. Et c'est vraiment là sur l'imperium. C'est pour ça que ça vaut la peine d'y réfléchir. Vous voyez? Alors je vous donne cette solution en mettant un grand point d'interrogation, et puis vous prenez l'autre solution en mettant un autre point d'interrogation. Vous voyez? Donc nous restons devant une question, et nous essayons de comprendre comment l'imperium étant un acte d'intelligence est lié à la manifestation, est lié au visible et à l'invisible. C'est toujours l'intelligence qui fait le passage du visible à l'invisible, c'est pas l'amour. C'est très curieux. C'est pas l'amour, c'est l'intelligence qui fait le passage du visible à l'invisible. C'est l'intelligence qui peut ordonner le visible à l'invisible et qui peut faire que le visible soit assumé par l'invisible en respectant l'ordre. Ça, c'est l'intelligence, c'est le propre de l'intelligence. Alors, on comprend que l'imperium étant un acte d'intelligence demande la manifestation comme imperium, comme acte. Mais je comprends aussi que l'imperium étant tout entier ordonné à la finalité, il vient de l'amour et il est ordonné à l'amour. Alors, dans l'ordre de l'amour, il y a une place très unique dans l'imperium à l'égard de l'amour d'amitié.
Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez